Turning today to the first letter of John, chapter 3 and verse 10.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première épître de Jean au chapitre 3 et au verset 10. 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas l'injustice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Et nous en arrivons au sujet de l'amour fraternel aujourd'hui. Mais dans cette lettre, l'apôtre Jean a déjà parlé de l'amour fraternel. Et nous avons déjà considéré ces différents arguments dont il a parlé. Et maintenant, il revient à cela. Et si vous lisez ce passage trop rapidement et de manière trop superficielle, alors peut-être que nous allons dire que c'est une répétition. Et l'apôtre Jean va à nouveau parler de ce sujet avant de finir son épître. Mais ce n'est pas une répétition. Chaque fois, il a des arguments bien distincts et il parle de différents aspects de ce sujet de l'amour fraternel. Je ne veux pas récapituler ce que nous avons dit auparavant, mais nous allons considérer les 5 grands aspects dont il parle ici. Dans ces versets qui sont là devant nous. C'est un autre rappel pour nous de l'amour fraternel, en considérant ces 5 aspects différents. Ne sous-estimez jamais les épîtres de Jean. Parce que ces épîtres semblent assez faciles à comprendre, et le texte semble simple, simple à suivre, mais toujours, dans chaque passage, il y a une profondeur. Il y a des arguments sophistiqués et nouveaux et profonds à observer dans chacun de ces passages. Et nous avons le privilège de faire cela. Je commence avec ces versets. Au milieu du verset 10, « Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. » Alors que l'apôtre Jean parle de ces 5 aspects ici, en même temps, il démontre combien chacun de ces aspects est une source d'assurance de notre salut. S'il y a une encre ou un lien dans ce texte, tout le long de cette première épître de Jean, c'est le thème de l'assurance du chrétien. Ainsi, bien qu'il y ait un thème particulier qui parle de l'amour fraternel, l'assurance est toujours à l'esprit ici dans cette épître de Jean. Tout d'abord, nous voyons que l'amour fraternel est quelque chose de particulier et une preuve puissante et particulière du salut. Sommes-nous tentés parfois de douter de notre salut, de notre propre salut? J'essaie toujours de dire aux gens que c'est là l'approche de l'ennemi de temps en temps, de vous amener à douter de la foi. Et s'il n'arrive pas à faire cela, alors il va changer son approche et son attaque. Et il va dire, « Ah oui, la foi est vraie, mais vous, vous n'êtes pas un vrai chrétien. » Et le diable va toujours essayer de vous attaquer quand vous êtes dans un état de faiblesse, peut-être de maladie, ou de faiblesse spirituelle. Peut-être qu'il va attaquer à ce moment-là, quand vous êtes déprimé, quand vous êtes faible, et les doutes vont venir. Il y a ici ces indices dans cette épître qui sont des preuves du salut. L'apôtre Jean a parlé de la conscience qui est en vie, le fait que vous ne pouvez pas facilement pécher. Vous ne pouvez pas pécher sans les conséquences, sans que votre conscience ne soit touchée et activée par l'Esprit de Dieu et qu'elle vous trouble profondément. Sans perdre votre bénédiction spirituelle et votre paix intérieure. Et ceci est une preuve de cette assurance. Dans votre vie chrétienne, vous êtes dans un combat contre le péché. Et c'est là une source d'assurance également. C'est une preuve de l'œuvre de la grâce dans le cœur. Et lié à cela, l'apôtre Jean parle de la communion fraternelle et de l'amour fraternel. Cette intuition, cette obligation, cette responsabilité à montrer l'amour fraternel et à l'exprimer. C'est une assurance de notre salut. Le verset 10, c'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu. En grec, se révèle, c'est resplendir, se révéler, non seulement visible, mais évident pour tous. Par exemple, si vous avez une conscience qui est en vie, qui vous condamne quand vous péchez et qui vous aide à grandir et à progresser, ceci est une preuve de l'assurance, du salut. Et si vous aimez les frères et sœurs, c'est une preuve de votre salut également. Nous pouvons voir ceci en l'un, en l'autre. Cette personne est un croyant parce qu'il est en souci de ces choses. Il ne hait pas l'autre personne. Et s'il entend des calomnies, la première chose qu'il fait, c'est de défendre la réputation de son frère. C'est une preuve merveilleuse du salut. Peut-être que parfois, si vous êtes découragé, vous pouvez utiliser cet argument contre l'ennemi. Vous savez que l'Esprit de Dieu a œuvré de grandes choses dans votre cœur. Quiconque ne pratique pas la justice n'a pas ce souci dans son cœur. Il n'est point de Dieu. Et quiconque n'aime pas son frère n'est point de Dieu non plus. Ainsi, vous avez une affection pour les autres croyants et un souci pour les aider. Vous remarquez dans ce passage que l'apôtre Jean va passer du frère au singulier, au frère au pluriel. Il le fait constamment. Et ceci fait partie de sa technique littéraire. Et ceci s'applique à notre attitude vis-à-vis des individus, également à notre attitude vis-à-vis de notre Église, de notre congrégation en son ensemble. Est-ce que nous avons cette affection en nous, ce désir d'aider les autres, d'apprécier les autres croyants. Cette préférence pour les croyants et pas pour le monde. Vous êtes dans un endroit étrange et avec des gens étranges et la grande bénédiction pour vous, c'est de rencontrer un croyant. Et il y a immédiatement un lien entre vous, un lien de famille. Et vous parlez avec ce croyant parce que vous êtes d'accord sur tant de choses et tant de points communs. Et c'est une preuve du fait que vous faites partie de la même famille. Vous avez tant de choses en commun avec les croyants et pas du tout avec les incroyants. Et vous devez prier pour les croyants. Vos affections sont réveillées quand les croyants sont dans la détresse, bien plus que quand les incroyants sont dans la détresse. Parce que vous êtes dans la même famille, il y a un lien particulier, une profondeur dans ce lien. Et ces choses sont évidentes. Cette personne est un croyant, cette personne s'identifie profondément, clairement avec la foi. Et alors nous défendons ces croyants. Il y a ce lien, ils font partie de la même famille comme nous. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Pour ce premier point, je vais lire un certain nombre de versets et je serai plus méthodique pour la suite. Au verset 14, quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Nous devons dériver cette certitude de cela. L'apôtre Jean dit, nous savons, nous pouvons être sûrs du fait que nous sommes sauvés. C'est un signe, une preuve du salut. D'avoir cette affection, ce lien fraternel, cet amour pour les frères. Et au verset 16, nous avons connu l'amour de Dieu. Comment est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu? C'est plus qu'une parole. Comment est-ce que vous pouvez comprendre l'amour de Dieu, le réaliser? Nous avons perçu l'amour de Dieu ou compris la profondeur de l'amour de Dieu, l'étendue de l'amour de Dieu, la grandeur, la qualité, la profondeur de l'amour de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons comprendre l'amour de Dieu? En regardant la croix du calvaire, parce qu'il a donné sa vie pour nous, c'est là ce qui nous rend capable de comprendre l'étendue de l'amour de Dieu. Si nous n'avions pas la croix du calvaire, alors nous aurions simplement un mot Dieu est amour, ce serait une compréhension technique et superficielle. Je crois que Dieu est amour. Mais qu'est-ce que cela signifie? Son amour, quelle profondeur, quelle qualité, quelle étendue? Oh, quand je vois la croix du calvaire, c'est un amour de sacrifice, c'est un amour plein de grâce, de miséricorde, c'est Christ, et nous le voyons, lui, avant la fondation du monde, qui était déterminé à venir. Il a mis son amour sur des individus, sur ses enfants, et il a dit « Je viendrai dans le monde, je souffrirai, je mourrai pour cette personne en particulier, pour cette dame en particulier, pour cet homme en particulier, je sais exactement ce que cela va me coûter et je sais ce à quoi je devrais faire face alors que je vais porter le péché et l'agonie éternelle qu'ils méritent. Je vais porter cela à leur place et je sais très bien que je vais payer un grand prix, que je vais faire cela pour cette personne précise, pour cette autre personne, ces gens si incroyants qui m'ont haï, qui m'ont méprisé et qui sont si faibles, et je vais les racheter librement, les sauver librement, sans qu'ils puissent contribuer, sans qu'ils puissent m'apporter quoi que ce soit, mais librement. Je vais payer tout le prix par amour, cet amour si profond, cette agonie si profonde. Dans la croix du calvaire, nous réalisons l'amour de Dieu. Si nous n'avions pas cela, alors jamais nous ne pourrions comprendre son amour. Nous avons perçu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous, en parlant de Christ, bien sûr, la deuxième personne de la Trinité. Et voici l'application qui suit. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Quand est-ce que nous avons fait quelque chose la dernière fois qui vraiment nous a coûté cher, qui nous a coûté pour aider un frère, une sœur? Quand est-ce que la dernière fois nous avons fait quelque chose qui vraiment nous a privé de quelque chose, qui nous a coûté? Et cependant, c'est là notre devoir, notre responsabilité. Nous aussi, nous devons avoir cet amour de sacrifice l'un pour l'autre. Bien sûr, ceci ne peut en rien être comparé avec l'amour de Christ. Son sacrifice à la croix du calvaire, l'agonie qu'il a portée pour nous sauver, le prix qu'il a payé. Et combien nous sommes indignes, ceux pour qui il est mort. Notre amour l'un pour l'autre ne va jamais pouvoir être comparé à son amour. Mais nous devons être dans le même type d'amour. Nous avons cette obligation. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. S'ils sont dans le besoin, s'ils manquent de quelque chose, s'ils sont épuisés, et dans la difficulté, dans la détresse, s'ils ont besoin de réconfort, de consolation, si cet homme, cette femme, s'ils sont engagés dans l'Église, dans le service du Seigneur, et ceci semble être trop lourd pour eux, est-ce que j'aide? Est-ce que je vais venir et les aider? Quand mon épouse et moi, nous avons commencé une Église il y a 56 ans, et nous avons essayé de faire beaucoup de choses, en même temps, nous étions si reconnaissants d'avoir un couple qui venait jour après jour et il trouvait toujours quelque chose à faire pour nous aider, que ce soit à la maison ou dans l'œuvre. Nous n'étions pas dans le besoin désespérément, mais il pouvait voir qu'on avait besoin d'aide, que nous avions besoin de gens fidèles pour faire toutes sortes de choses pour nous aider. Nous devons donner notre vie pour nos frères. Ils ont vraiment dû mettre leur routine de côté pour nous aider parce qu'ils ont abandonné beaucoup de choses, leur routine et leur vie de famille. C'était pour l'œuvre de Dieu également. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et si vous faites cela et que vous voulez faire cela, alors vous pouvez dire au diable, « Je sais que le Seigneur a œuvré dans ma vie, c'est là une preuve de mon salut. Je suis si sûre, jamais je ne serais ainsi si je n'étais pas sauvée, parce que je vivais uniquement pour moi-même auparavant. » C'est là le raisonnement de l'apôtre Jean. Nous avons perçu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. C'est là le raisonnement de l'apôtre Jean. Et nous en arrivons au verset 19. Car c'est en cela que nous savons que nous sommes de la vérité et que nous assurerons nos cœurs devant lui. C'est là une méthode. Vous êtes autorisé à utiliser cette méthode pour voir ce que le Seigneur a fait dans votre cœur et de voir en cela la preuve du salut. En ayant cette consécration, cette bonté envers les frères et sœurs, nous pouvons assurer nos cœurs devant lui et savoir que nous sommes de la vérité. La vérité nous a possédés. C'est là ce que cela signifie. La vérité nous a enveloppés. Cet ensemble de vérité, ce corps de vérité nous a enveloppés. Vous pourriez dire, est-ce réellement une source d'assurance? Regardez le verset 20, c'est puissant. Car si notre cœur nous condamne, ceci se réfère au moment où le diable vous tente en vous disant vous n'êtes pas chrétien. Et votre cœur se dit, oh, je ne suis pas chrétien, non, je ne le suis pas. Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu vous a dit cela. Et si vous voyez les preuves de votre conscience qui vous touche quand vous péchez et votre désir d'aider les frères et sœurs, alors vous pouvez assurer vos cœurs en cela et les rassurer. Si notre cœur nous condamne et nous sommes pleins de doutes par ces murmures de Satan qui vient vers nous, souvenez-vous, Dieu est plus grand que notre cœur. Il nous a dit de rassurer nos cœurs en voyant cette preuve de l'amour fraternel. Il connaît toutes choses, il sait ce qu'il fait. Vous êtes autorisé à découler une assurance de cela, de cette tendance à aider les autres. Et ceci, Dieu vous l'a donné, il vous a transformé. C'est une assurance du salut. Mon deuxième point, rapidement, et c'est assez différent, c'est la preuve de l'hostilité. Au verset 11, « Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, ne faisons point comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Frère, ne vous étonnez point si le monde vous hait. » Ceci considère l'amour d'un chrétien presque de l'autre point de vue. Parce que vous appartenez au peuple de Dieu, que vous avez cet amour pour le peuple de Dieu et que vous avez tout en commun avec les enfants de Dieu et vous avez cet amour pour eux, vous vous identifiez à eux. Alors, de même, vous êtes séparés de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Bien sûr, vous voulez être bon envers eux, les aider pour l'amour de l'Évangile. Mais vous n'avez rien en commun avec eux à présent. Vous n'aimez pas les mêmes choses, vous n'avez pas les mêmes goûts, les mêmes conversations, vous n'avez pas les mêmes buts, vous n'aimez pas le péché. Ainsi, alors que vous êtes tout près des enfants de Dieu, de manière inévitable, vous êtes séparés et si loin des incroyants. Et c'est là ce dont parle l'apôtre Jean ici. C'est là une preuve du salut. Que vous êtes mis de côté par le monde, qu'il considère que vous êtes différent, que vous n'appartenez pas au monde, le monde incroyant. Et vous pouvez découler votre assurance de cela. Dieu vous a transformé, vous a délivré du monde. Ainsi, nous en arrivons au verset 12. Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il y avait une grande séparation entre les deux. Caïn se sentait repris par Abel. Caïn se sentait diminué devant Abel et il est devenu jaloux et il était en colère et il a méprisé Abel. Il était furieux contre la paix d'Abel et sa conviction et sa certitude et ses objectifs célestes. Ne faisons point comme Caïn qui était du malin et qui tua même son frère. Et la conclusion au verset 13, frère, ne vous étonnez point, ne soyez pas étonnés. Frère, si le monde vous hait, il y a un grand fossé entre vous et le monde. Et c'est là une source de preuve. Ne soyez pas découragés en cela. Ils me rejettent. Ils me méprisent. Parce que je ne fais pas les mêmes choses qu'eux. Parce que je ne vais pas dans les mêmes fêtes. Parce que je ne me joins pas à leurs conversations. Je suis mis de côté. Et derrière mon dos, ils disent du mal de moi. Oui, dit l'apôtre Jean. Ceci est une source d'assurance pour vous. Priez pour eux et aidez-les, essayez de les gagner à Christ, mais vous ne faites pas partie du monde. Si vous faites encore partie du monde et que vous allez sur les réseaux sociaux et que vous êtes tout près des gens mondains en aimant toutes les choses que eux aiment et vous allez sur le même chemin, vous aimez les mêmes choses, oh, alors peut-être je ne suis pas un chrétien, mais si vous êtes séparés d'eux, que vous essayez de les gagner, que vous tenez fermement pour le Seigneur, alors vous ne faites pas partie du monde, c'est une source d'assurance pour vous. C'est là le raisonnement de l'apôtre Jean. Et ensuite, il y a un troisième point, et j'en arrive au verset 15. « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Nous avons vu ceci auparavant dans cet épître. Mais à présent, c'est développer un peu plus. De haïr son frère, de ne pas aimer son frère, c'est un péché qui fait partie de la catégorie du meurtre. Moïse explique ceci de manière répétée dans le Pentateuch. Ceci fait partie de la famille du péché du meurtre. Pourquoi ? Si vous haïssez quelqu'un ou que vous ne voulez pas parler à quelqu'un, un chrétien, que vous évitez cette personne, etc. Ce que vous faites en réalité, c'est d'espérer que cette personne est morte. C'est la même chose. Oh, mais je n'ai pas pensé ceci. Mais c'est ce que vous avez fait. Vous vous séparez de cette personne. Vous ne voulez pas parler à cette personne. Peut-être que vous parlez contre cette personne. Vous lui ôtez le respect et sa réputation parce que d'une certaine manière, vous espérez que cette personne n'était pas là. Oh, jamais vous n'avez imaginé de tuer cette personne, mais voyez-vous, ceci fait partie de la catégorie de péché du meurtre. Vous ne pouvez pas haïr votre frère. Oh, je sais qu'il y a des règles particulières dans la Bible pour un frère, pour une sœur, qui fait quelque chose de terrible, de péché. Et la parole de Dieu dit que parfois, nous devons mettre de côté cette personne pour les amener à la repentance et leur montrer que leur comportement est mauvais. Il y a ces règles particulières pour les gens qui se conduisent d'une manière pleine de péché et terrible. Mais de manière générale, si nous haïssons notre frère, que nous mettons notre frère de côté, c'est comme espérer que cette personne n'existait pas et vous mettez cette personne de côté. D'une certaine manière, Dieu va vous punir pour cela ou vous priver de quelque chose pour mettre cette personne de côté en espérant que cette personne soit morte d'une certaine manière. Ceci est grave. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Est-ce que ceci dit que vous n'êtes pas sauvé? Peut-être. Ou peut-être que vous êtes rétrograde. Et vous vous comportez comme une personne qui n'est pas sauvée. Parce que vous espérez que cette personne n'existe pas. Ainsi, nous devons réparer ces ponts et le fait que nous ayons un fardeau pour réparer cette relation, c'est une preuve de notre salut. Je vais me repentir de mon péché, je vais restaurer ces relations avec mon frère. L'orgueil humain ne fait pas cela. Uniquement la grâce de Dieu peut vous amener à faire cela. Ainsi, vous pouvez dériver votre assurance du fait que vous réparez les ponts et les relations. C'est là l'argument de l'apôtre Jean. Nous voyons la preuve du salut ici, la preuve d'un cœur qui est ouvert. Au verset 17, « Or celui qui aurait des biens de ce monde et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ? Mais si nous aidons les autres, ceux dans le besoin, ceux qui œuvrent pour le royaume de Dieu, alors nous pouvons être sûrs qu'il y a la vie en nous. Et nous avons le temps de regarder ceci au verset 21 et 22, les preuves des réponses aux prières. Il y a une promesse particulière ici, au verset 21, « Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Cette assurance devant Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Vous pouvez uniquement être sauvé par la grâce, par la miséricorde libre de Dieu. Le salut est libre, nous ne pouvons pas mériter le salut, jamais, nous ne pouvons pas le mériter. Nous nous confions en Christ seul, nous lui donnons notre vie, nous nous repentons de notre péché, et le salut nous est donné librement. Mais, une fois que nous sommes sauvés, en obéissant au commandement de Dieu, et en particulier, Jean dira, en ce qui concerne l'amour fraternel, en obéissant au commandement de Dieu, ceci facilite nos prières et il entend nos prières et il y répond. Saviez-vous cela? Votre utilité dans la prière, votre fruit sera bien plus grand si vous êtes consciencieux en ce qui concerne l'amour fraternel. C'est là la promesse inhérente de ce verset. Oh, j'aimerais le relire. Au verset 21, nous avons de l'assurance devant Dieu et quoi que nous demandions. Il y a un verset plus loin qui donne une condition. Je vais le lire plus loin. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Ceci ne parle pas du salut. Ceci parle de chrétiens sauvés par la grâce qui honorent le Seigneur, qui sont consciencieux quant au péché, ce combat contre le péché et l'amour fraternel. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous avons à l'esprit au verset 23, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Si vous laissez ceci de côté dans votre sanctification, dans votre vie chrétienne, et que vous ne pouvez pas être approché, que vous êtes si méchant vis-à-vis des autres chrétiens ou inapprochable, alors vous allez passer à côté de beaucoup de fruits dans votre vie de prière. C'est là l'implication de ce verset. Que le Seigneur entend particulièrement ceux qui gardent ses principes du Seigneur, ses croyants. Et ensuite, ceci parle de priorité également. Mais avant de lire ce verset, voyons comment il y a un écho de ceci dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7 par exemple. L'apôtre Pierre ici dit « Marie de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes comme envers un être plus faible en lui rendant honneur. » Puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. Voyez-vous, il y a une promesse parallèle dans un autre domaine. Si les maris sont méchants, colériques, et qu'ils ne sont pas courtois, qu'ils n'honorent pas leur épouse, qu'ils ne sont pas ceux qui les comprennent et qui sont doux, alors le Seigneur n'entendra pas leurs prières. De la même manière, et leur prière sera en vain. Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, en lui rendant honneur, en écoutant, en la respectant comme étant un être plus faible, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. Il y a un certain nombre de promesses qui ressemblent à cela dans la parole de Dieu. Rapidement, j'aimerais lire 1 Jean chapitre 5 verset 14 pour cette condition, pour cette promesse. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Selon sa volonté. Ainsi, il ne sert à rien. Comme les prédicateurs de la prospérité vous disent de prier pour la richesse, parce que ceci n'est pas nécessairement selon sa volonté. Nulle part dans la parole de Dieu on vous demande de prier pour la richesse, nulle part. Nous vous prions pour ces choses pour lesquelles le Seigneur nous demande de prier, la sainteté, le fruit pour son œuvre, la bénédiction. Et alors le Seigneur entendra vos prières et y répondra. Et finalement, au verset 23, ceci parle des priorités dans l'amour fraternel. Et ceci est important pour certains amis. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Ce sont là les deux aspects qu'il a à l'esprit dans l'Épître jusqu'à présent. Et ce sont là nos priorités. Tout d'abord, en tant que chrétiens, nous devons croire dans le nom de Jésus-Christ. De croire dans son nom, le nom de Christ indique ses attributs et sa prééminence. Le nom de Dieu dans le Nouveau Testament, ceci réfère toujours aux attributs de Dieu et à sa prééminence. En d'autres termes, lui vient en premier. Ensuite, nous nous aimons les uns les autres. Ceci vient en deuxième. C'est un verset qui donne un principe de priorité. Voyez-vous, nous ne sommes pas simplement un club, un groupe de gens. Oh, une église, oui, la communion fraternelle des enfants de Dieu, c'est comme un club. Non, ce n'est pas simplement pour l'amitié, non pas en priorité. Ce n'est pas pour se rassembler, être ensemble et avoir un bon temps et avoir des relations conviviales pour notre bienfait, pour notre bien, pour nous-mêmes. Non, c'est tout d'abord pour Christ, pour l'honorer lui, son autorité, son adoration, son service et ensuite pour être une bénédiction l'un pour l'autre. Vous ne pouvez pas mettre la deuxième chose en premier. C'est là ce que certaines de ces églises, soi-disant des églises de mission, font. Ce ne sont pas des missions pour proclamer Christ, simplement comme le terme signifie. C'est une autre idée de l'église. Il y a ces églises dans différents endroits. Peut-être que certains sont croyants, oui. Mais il y a souvent simplement un culte par semaine. Pas d'études bibliques, pas d'école du dimanche, pas de réunion de prière, mais simplement des cellules de prière dans un pub, dans un café. Et tout ce qui est important pour ces églises de mission, c'est d'être ensemble et de passer de bon temps ensemble. Et tout est sens dessus-dessous. Non, tout d'abord, c'est adorer le Seigneur et le servir et parler de lui et prêcher sa parole. Il n'y a rien de mieux que la communion fraternelle dans le service du Seigneur. Et d'avoir cette communion fraternelle avec ceux qui servent le Seigneur en particulier. L'apôtre Jean rend ceci très clair dans ce verset 23. Et c'est ici son commandement. Christ en premier, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, les attributs de Christ, la prééminence de Christ, et que nous nous aimions les uns les autres. Et alors, nous pouvons avoir cette communion fraternelle, ce lien, et s'aider l'un l'autre, s'assister l'un l'autre. Nous avons considéré aujourd'hui un peu plus concernant l'amour fraternel. Tout d'abord, en tant que preuve valide et authentique du salut. Deuxièmement, même l'opposé à cela, l'hostilité de la part du monde est une preuve du salut. Troisième point, la preuve qui vient d'un cœur qui est ouvert pour aider les autres. Les réponses aux prières, parce que nous mettons en pratique cela, c'est là une preuve de notre salut. Et ensuite, les priorités qui doivent être importantes, Christ en premier et ensuite l'amour fraternel. Et je suis passée d'un verset à l'autre, mais tout est là, dans ces 14 versets que nous avons considérés, 5 aspects de la communion fraternelle et de l'amour fraternel.